Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, votre journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h sur Europe 1, bon réveil.
Je ne cherche plus à savoir qui a raison, qui a tort, ce sera comme ce sera. C'est de la résignation, mais de la résignation positive.
Résignation positive pour les uns, sentiment de grande lassitude pour les autres. Les Français sont partagés alors que l'annonce d'un troisième confinement est imminente. Conséquence de ce reconfinement, les étudiants qui retournent en cours au compte-gouttes depuis hier risquent de devoir rester chez eux. Dans ce journal, on posera la question, les élections régionales prévues en mars, puis en juin, vont-elles être encore reportées? La Grèce achète 18 avions Rafale à la France. C'est une première en Europe. Et puis comme son prédécesseur, Joe Biden défend le Made in America avec la signature d'un décret qui favorise les achats de produits américains.
À suivre les sports avec Jérôme Lacroix. Et alors que débute aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi qui doit mettre fin à la détention d'animaux sauvages dans les cirques, mon invité inattendu est un chanteur que vous connaissez bien et qui est particulièrement engagé sur ces questions. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Encore un peu de suspense autour du troisième confinement. Emmanuel Macron ne s'exprimera pas cette semaine. Finalement, le chef de l'État souhaite d'en savoir plus sur les effets du couvre-feu généralisé à 18h. Le gouvernement se réunit demain en Conseil de défense sanitaire. Les décisions devraient être prises à ce moment-là. Mais en attendant, comment anticipez-vous ce reconfinement et êtes-vous prêt à le supporter? Lionel Gougelot a posé la question dans les rues de Lille.
Le premier constat, c'est que la perspective de ce confinement dicte les priorités. Par exemple, pour les grands-parents, profiter des derniers jours avec les petits-enfants.
Les enfants sont sur Dunkerque, donc on va y aller demain et après-demain. Et la semaine d'après, je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller.
Parce que dans l'incertitude, c'est forcément l'angoisse de l'enfermement qui ressurgit.
Je vis chez mes parents, on va se retrouver encore à 4-5 dans un appartement où on va être là tout le temps, tous les jours. Au bout d'un moment, c'est pénible, quoi.
Alors, comme pour conjurer le sort, Victor maintient quand même son prochain week-end.
J'ai pris des billets de train. Je pense qu'il faut continuer à faire des projets. Sinon on s'en sort pas.
Lucie, l'étudiante, est sur la même ligne, elle qui n'exclut pas quelques petites entorses à ce confinement.
Si on n'a pas un minimum de contact social, c'est absolument pas possible. Et je suis pas en train de parler des soirées à 40 ou 50 personnes. C'est de faire du sport, de rester en contact avec nos proches. Ça permet vraiment de garder les pieds sur terre.
Et puis il y a les fatalistes.
Le moral, il prend un coup pour tout le monde. Alors on est enfermé à sa maison, mais... Que voulez-vous faire d'autre?
Qui accepte stoïque cette nouvelle épreuve?
Moi, je vis au jour le jour. Je me plains pas. Je fais ce que le gouvernement dit et puis voilà.
Je ne cherche plus à savoir qui a raison, qui a tort. Ce sera comme ce sera. C'est de la résignation, mais de la résignation positive.
La résignation positive, en psychologie, ce serait une façon de trouver le bonheur dans une situation difficile. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
En tout cas, s'il y en a un qui ne s'estime pas en capacité de supporter un troisième confinement, ce sont les chefs d'entreprise, puisque c'est ce que confie la moitié d'entre eux dans une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises publiée ce matin.
Les étudiants, eux, sont de retour sur les bancs de la fac pour certains depuis hier. Mais que va-t-il se passer en cas de reconfinement?
Et la question est un énième casse-tête pour les directeurs d'université. Lionel Larré est le président de l'université Montaigne à Bordeaux.
Les consignes sont contradictoires. Les L1 peuvent revenir à 50%, les étudiants fragiles peuvent revenir par groupe de 10, mais la circulaire reçue vendredi après les déclarations du président Macron nous indique qu'il faut faire revenir tous les étudiants à 20%. Là, on est en train de comprendre comment on fait pour accueillir 50% des L1 et 20% de tous les étudiants. Cette organisation, elle implique aussi un changement des emplois du temps, non seulement pour les enseignants qui doivent donc donner des cours en présence et à distance, et donc pour les étudiants. Mais un changement d'emploi du temps dans une université de 18 000 étudiants, ça se fait pas comme ça. Il faut que l'emploi du temps de tout le monde soit compatible. C'est un véritable casse-tête et ça doit s'organiser, ça doit continuer de s'organiser sur les semaines qui viennent, sauf si on nous annonce un nouveau confinement, sachant que ce confinement, on ne sait pas si il inclura les écoles et les universités.
Propos recueillis à Bordeaux par Stéphane Place.
L'épidémie continue de bouleverser le calendrier politique avec cette question toujours en suspens. Quand allons-nous voter pour les élections régionales?
Le scrutin prévu en mars a déjà été repoussé à cause du Covid. L'élection est donc prévue en juin, même s'il y aura une clause de revoyure pour tenir compte de l'épidémie. Le Sénat se penche aujourd'hui sur le projet de loi qui reprogramme les régionales. Mais alors que ce troisième confinement menace, allons-nous vraiment voter en juin? Aurélie Herbemont.
Emmanuel Macron fera tout pour qu'on vote après la présidentielle, histoire d'éviter une déroute électorale. Cette accusation est récurrente dans l'opposition. Un dirigeant macroniste se veut pourtant rassurant. On est parti pour tenir les élections en juin. Pour dissiper les doutes, les présidents de région voudraient que l'exécutif sanctuarise dès aujourd'hui la date. C'est compliqué, confie-t-on au gouvernement. On ne peut pas dire le mardi, oui, on vote absolument en juin, et le lendemain, on reconfine. Problème, personne ne sait quelle sera la situation sanitaire au printemps. Si c'est vraiment catastrophique, on verra, admet un sénateur LR. Mais il faut se donner les moyens de tenir le calendrier, le principal souci restant la campagne. Pour les régionales, le numérique et les médias, ça va, explique un conseiller ministériel. Mais beaucoup d'élus départementaux ne savent pas faire campagne sans serrer des mains et n'ont même pas de page Facebook. Bref, le feuilleton de l'organisation risque de durer jusqu'au 1er avril, date du rapport du conseil scientifique sur la tenue des élections.
Aurélie Arbemont du service politique d'Europe 1. Les Pays-Bas viennent de subir une deuxième nuit d'émeutes consécutives, des violences à Amsterdam, Rotterdam ou encore La Haye. Plus de 70 personnes arrêtées hier soir, des scènes qui font suite à l'annonce du couvre-feu dans le pays.
On en vient à cet autre titre, le Rafale, qui s'exporte un peu plus et pour la première fois en Europe.
Et oui, la Grèce a signé hier un gros contrat pour 18 avions de combat français. Objectif, renforcer sa défense en pleine tension avec la Turquie. Et c'est donc la première fois que le groupe Dassault Aviation va équiper une autre armée européenne que la nôtre, Élise Dangean.
Et oui, car jusqu'alors, Dassault Aviation n'avait que trois clients pour ses Rafales, l'Égypte, le Qatar et l'Inde. Le premier a déjà reçu ses 24 avions. Doha et New Delhi ont eux commandé 36 appareils. Les dernières livraisons seront effectuées dans l'année. La Grèce vient donc s'ajouter à la liste, client fidèle de Dassault depuis 45 ans. Le pays a commandé 18 Rafales, 6 sont neufs, 12 sont d'occasion. Ils appartiennent à la flotte de l'armée de l'air française. Et dans la période actuelle, ce contrat est une excellente nouvelle, tant pour le groupe que pour ses 500 sous-traitants, d'autant qu'en plus des contrats étrangers, il va falloir assurer les livraisons françaises. Il en reste 40, mais Dassault espère ne pas s'arrêter là. Le Rafale est notamment en compétition en Suisse, en Finlande et en Croatie.
Les explications d'Élise Dangean.
Et notez que tout à l'heure à 8h15, le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, sera l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
L'Assemblée nationale examine aujourd'hui et jusqu'à vendredi une proposition de loi contre la maltraitance animale. Elle prévoit notamment des mesures pour lutter contre l'abandon ou la maltraitance des animaux domestiques, alors qu'un Français sur deux possède un animal de compagnie.
Europe 1. À suivre, Joe Biden qui veut favoriser les achats de produits américains. De quoi rappeler le « America first », l'Amérique d'abord de Donald Trump. A tout de suite, il est 6h07.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
6h09 sur Europe 1, la suite du journal avec Sophie Echen.
Aux États-Unis, Joe Biden continue sur sa lancée. Le nouveau locataire de la Maison Blanche reprend même une formule chère à son prédécesseur, America First. Biden a signé hier un nouveau décret qui demande au gouvernement et aux agences fédérales d'acheter davantage de produits américains pour défendre les emplois nationaux. Et même avec un changement de président à la Maison Blanche, le protectionnisme continue, Alexis Guilleux.
Oui, ne dites plus America First, mais Buy American, acheter américain. Le futur sera fabriqué en Amérique. C'est le slogan qui était écrit hier juste derrière Joe Biden. Il se pose en défenseur de l'industrie qu'il qualifie de colonne vertébrale de l'Amérique.
Je ne crois pas une seconde que la vitalité de l'industrie manufacturière américaine soit une chose du passé. Elle a été l'arsenal de la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale et doit faire partie du moteur de la prospérité américaine aujourd'hui.
Donald Trump avait utilisé les droits de douane comme une arme pour défendre l'économie américaine. Avec ce décret signé, Joe Biden veut lui relancer la production nationale, préserver ses débouchés. Il sera donc plus difficile pour une agence fédérale d'acheter à l'étranger. L'objectif, c'est bien de protéger les emplois des Américains.
Les Américains ne peuvent pas rester sur la ligne de touche pour l'avenir. Nos concurrents n'attendent pas. Nous devons gagner non seulement les emplois d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain.
Et Joe Biden met l'accent sur les énergies vertes. Il s'est par exemple engagé hier à remplacer la flotte de véhicules de l'État par des voitures électriques fabriquées aux États-Unis.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis et concernant la vaccination, Joe Biden affiche sa confiance. 1,5 million de vaccins devraient être bientôt administrés chaque jour. Nous nous serons nettement rapprochés de l'immunité collective d'ici l'été, a assuré le président.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h11.